bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Calomodelli.
Bonjour à tous.
Alex Ingris. Albert Aldou.
Bonjour.
Tony Passereau sera tout à l'heure. Daniel Morin.
Bonjour.
Camille Soro sera en live. Et notre invité, monsieur Eric Emmanuel Schmitt.
Bravo.
Bienvenue, monsieur le président.
Ah, bah oui. Je suis même pas le président de moi-même, alors non, de quoi puis-je être le président?
Bah, vous êtes le président de la 23e édition du Festival de Correspondance.
Oui.
Voilà. C'est trop la classe. Ça se passe à Grignan du 3 au 7 juillet. Ça arrive vite, hein. C'est dans à peine deux, trois semaines. Vous allez présider avec Amélie Nothomb l'inauguration le 3 juillet à 19h. Ce sont des lectures, enfin des correspondances, Festival de Correspondance.
Oui, c'est une idée géniale. C'est-à-dire Grignan, on va faire un peu d'histoire littéraire. Okay. Ouais. Grignan, c'est là où habitait la fille de Madame de Sévigné. Et donc, les lettres de Madame de Sévigné sont toujours adressées, voilà, les fameuses lettres magnifiques sont adressées à sa fille qui est à Grignan. Et cette jolie petite ville dans la Drôme provençale, c'est une espèce de Toscane française, cette jolie petite ville a décidé de faire un festival dédié à la correspondance.
Alors, quel est pour vous le plus de la correspondance en termes d'écriture par rapport aux romans, aux récits, aux essais, aux pièces de théâtre?
C'est une parole adressée. C'est une parole pour quelqu'un, donc il y a une couleur affective, quoi, immédiate. C'est pour ça qu'on aime lire les correspondances. Enfin, moi, j'adore lire les correspondances. Et je trouve que d'ailleurs, on se remet à faire de la correspondance avec maintenant Internet.
Il y a de très belles lettres de licenciement aussi.
Il y a pas un petit truc en moins avec justement l'absence du graphisme, l'absence de parfum, tout ce qu'on pouvait imaginer en plus.
Le timbre, même je pense ce qu'on dit a changé parce qu'on sait qu'on va avoir une réponse rapide. À l'époque de Madame de Sévigné, oui. On sait que la poste allait mettre une semaine à porter la lettre et qu'on aurait une réponse qui viendrait au bout d'une semaine. Donc, du coup, on écrivait plus, on détaillait plus. Et au fond, la lettre était plus romanesque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la lettre, elle va aller assez à l'essentiel. Là, il y a peut-être un appauvrissement.
Et puis, ça permet à plus de gens d'écrire parce que finalement, on a toujours tendance à voir comme l'âge d'or, cette période où on s'envoyait des lettres, mais oui. Beaucoup de gens ne s'envoyaient pas de lettres. Oui. Et finalement, le numérique permet aussi de créer des correspondances qui n'auraient peut-être pas pu voir le jour. Donc finalement, je me dis toujours, c'est toujours péjoratif de dire après la lettre, le numérique. Eh bien, je crois que finalement, on peut y trouver quelque chose d'intéressant.
Oui, puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a une forme littéraire qu'on peut prendre comme littéraire, c'est le SMS. Oui. Moi, j'adore faire des SMS. Je soigne mes SMS, vraiment, parce qu'il faut dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc, faut être poète par dizaines de mots. Et je trouve que c'est très joli, l'écriture des SMS. Un joli SMS. Vous passez la journée à le lire et à le relire.
Alors je vais faire le vieux con de service. Mais soyez moderne, vous êtes branché, très bien, vous faites des SMS et des mails.
Il est de mauvaise foi.
Non, pas du tout.
Mais c'est vrai que c'est un vieux con.
Je vais faire le vieux con de service. L'écriture. La beauté de la forme de la lettre.
Tu pars du principe que déjà les lettres étaient bien écrites et étaient intéressantes.
Je voudrais juste qu'il y ait des SMS qui sont vides de sens, je pense
qu'il y a des lettres qui n'avaient pas d'intérêt.
Le débat comme bon vous semble.
Même si l'écriture est justement moche.
Non mais c'était mieux avant, c'est dommage.
C'est pas ça, c'est que l'écriture encore aujourd'hui, tu continues d'écrire aujourd'hui. Sauf que déjà quand tu prends un papier et un crayon et que tu écris quelque chose ou que tu envoies une lettre, tu n'écris pas la même chose que si tu la tapes. Je suis convaincu.
Ça veut pas dire que c'est plus intéressant.
En termes de syntaxe, je pense qu'on est plus profond et plus sincère quand c'est la
plus
main.
Plus d'émotion.
Exactement. Quand c'est la main.
Quand tu m'as quitté par SMS, Léla.
Oui, parce que j'en avais. Aucune émotion. J'avais pas le temps.
et moi, je vais aller plus loin. L'écriture, même d'un psychopathe qui t'insulte en disant je vous ai écouté à la radio, je veux votre mort.
Ah, je crois que je le connais.
L'écriture des lettres racistes que je continue de recevoir trahissent justement le cerveau dérangé, détraqué des gens qui
veulent. Vous dire qu'il met deux S à toutes les lettres.
En même temps, t'as pas t'as pas besoin de voir son écriture pour te dire que vu le contenu, il est dérangé. Enfin, tu vois.
Mais quand même, le hasard. Ouais.
Mais j'écris très bien.
Le hasard de la vie. Le hasard de la vie fait que.
Mais c'est vrai que ça rassure.
La beauté de la lettre déliée.
Une lettre d'insulte qui ressemble à du fil de fer barbelé, ça rassure.
Exactement.
Il est dérangé. Je ne suis pas touché.
C'est ça.
Et alors, par contre, une lettre d'amour avec des lettres bien rondes. On se dit, oui, c'est bien moi.
On est d'accord. Alors, ce festival consiste en plusieurs lectures avec des invités et des comédiens attendus. Alors, je ne sais pas si tous sont confirmés. Isabelle Adjani, Marie-Christine Barrault, Benoît Poulvorde, Eric Ruff, Lambert Wilson.
Oui. Ah ben c'est de plus en plus couru ce
super
festival.
Festif, ouais.
Et à chaque fois, toutes les salles sont pleines. Enfin, beaucoup de choses se passent en plein air. Mm-hmm. Et oui, parce que c'est le bonheur du verbe, vous savez. Et les acteurs, ils sont quand même de bons vecteurs du bonheur du verbe. Et donc, il y a plein de grands acteurs qui viennent lire des correspondances.
Est-ce qu'ils choisissent les correspondances qu'ils lisent ou est-ce qu'il y a un directeur artistique qui dit en fonction de telle correspondance, ça pourrait être telle voix, telle comédienne ou comédien qui...
On leur donne un choix.
D'accord.
On leur donne un choix de lecture. Il faut qu'ils, quand même qu'ils aient des atomes crochus et qu'ils vibrent avec le texte qu'ils vont lire.
Ouais. Et alors vous, quel est votre rôle ?
Alors moi, avec mon amie Amélie Nothomb, nous présidons parce que cette année, le thème, c'est la Belgique.
La Belgique. Ouais.
Voilà, le thème, c'est la Belgique. Et on a ça en commun.
Ceci n'est pas un festival lettres belges.
C'est ça. On a ça en commun, Amélie et moi, c'est qu'en fait, on a inversé les cours migratoires, c'est-à-dire qu'elle, c'est une Belge qui est venue s'installer à Paris, et moi, je suis un Français qui est allé s'installer en Belgique. Amélie et moi, on est amis depuis 25 ans. Ce qui est rare chez les écrivains.
En tout cas, c'est Pascal dit, elle. Hein.
Et je me souviens surtout que quand on a commencé, c'était dans les années 90, comme notre éditeur avait repéré que nous nous entendions bien, on annonçait dans les FNAC, vous savez, pour les rencontres, on annonçait Eric Emmanuel Schmitt et Amélie Nothomb, et on nous mettait ensemble, et à nous deux, on arrivait à avoir 10 personnes. On était contents, parce que tout seul, on n'avait pas grand monde. Et là, maintenant, je pense qu'ils ont pris un grand risque en nous mettant tous les deux.
Vous faites 5 ans, au contraire.
Ouais.
Parfait.
Et c'est bien, le temps passe.
Ça veut donc dire, le thème est sur la Belgique, les textes ne tournent pas tous autour de la Belgique.
Non, il y aura des textes d'auteurs belges, il y en a des grands, Simenon, Yourcenar, etc.
Alors il y a des rencontres littéraires aussi.
Michaud.
Pardon ?
Michaud.
Ouais.
Henri Michaud.
Super programme. Non, super programme, je suis assez impressionnée, mais ça soit aussi, on parle de bande dessinée avec Benoît Peeters, donc c'est vraiment la littérature dans tous ses états, dans tout ce qui se lit. Vous avez un coup de cœur particulier pour une rencontre, une rencontre que vous ne voulez pas louper?
Je voudrais pas louper la mienne avec Amélie Nothomb.
Oui, certes, mais au-delà de la vôtre.
Non, mais moi j'irai voir plusieurs choses. J'ai pas encore décidé.
Ça consiste en quoi?
Mais
ce que
c'est très belge d'inviter la bande dessinée dans un festival de littérature et de correspondance.
Comment se passent les rencontres littéraires? Vous et Amélie Nothomb réunis dans une salle. Vous êtes sur une scène.
Parfois c'est à l'extérieur, c'est-à-dire sous les platanes, dans une atmosphère vraiment d'apéritif provençal. Salle. Et après le village se couvre de monde, il y a des gens partout.
Mais donc c'est une discussion à bâton rompu, il y a un conducteur entre guillemets qui est fait.
Il y aura Jacques
Deléquer
qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, dont en fait Amélie et moi faisons partie. Moi personnellement j'ai eu le plus beau fauteuil, le numéro 33, qui a été inauguré par Anna de Noailles, ensuite c'était Colette, ensuite c'était Cocteau. Et on m'a offert ce poste et Amélie est aussi un poste là-bas et donc Jacques Deléquer qui a un esprit absolument brillant, qui connaît toute la littérature francophone contemporaine, va nous interviewer. Donc déjà moi je suis alléché parce que c'est un esprit subtil.
Donc c'est une sorte d'interview faite en public,
oui,
où le public peut intervenir,
bien sûr,
poser des questions.
Bien sûr, oui.
c'est ce que
je préfère.
Est-ce que c'est une masterclass d'écriture?
Je ne sais pas sur quel terrain
comment définir une rencontre littéraire.
Une rencontre littéraire, c'est une rencontre qui va passer à travers les thèmes qui occupent l'œuvre d'un écrivain et qui intéresse le public, puisque c'est l'adhésion entre un écrivain et un public, c'est souvent ces thèmes, ces problématiques. Et puis ensuite, il y a souvent beaucoup d'échanges sur la création. Parce qu'en fait, moi, ce qui me rassure, c'est que les gens sont passionnés par le processus créatif, passionnés par comment une idée vient, comment on la développe, comment on doit rêver une idée longtemps pour qu'elle finisse par reproduire une histoire. Enfin, bref, l'histoire d'hémisphère droit. Alors que dans nos sociétés, on parle que de l'hémisphère gauche, quoi. Mmh. Celui qui apprend, qui classe les connaissances, qui dérange. Bon, celui-là, nos études l'ont développé. Mais l'hémisphère droit, le plus passionnant,
celui qui crée,
celui qui raconte des histoires, qui les élabore, on n'en parle jamais. Donc, dès que vous rencontrez un écrivain, vous allez parler de l'hémisphère droit.
Ça se passe donc à Grignan du 3 au 7 juillet, 23e édition de ce festival de la correspondance. On vous l'a dit avec un casting qui met l'eau à la bouche et qui pique les yeux tellement
et
il y a un choix.
Et vous, c'est quoi votre...
Moi, je sais déjà. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que la programmation de ce festival, elle se fait à travers toute la journée. Donc, on peut assister à une lecture à 22h. Bien, moi, j'adorerais être là pour la clôture, le 7 juillet, pour entendre la correspondance de Camus et de Maria Cazares, interprétée par Isabelle Adjani et Lambert Wilson. Je pense que ça peut valoir le détour, clairement. Voilà, donc je viendrai pour la clôture si je pouvais.
Et les artistes dont vous ne vouliez pas.
Hein, il y a des mauvais lecteurs. Hein. Il y a des très bons acteurs, très mauvais lecteurs. Ouais, c'est vrai.
Il y en a là.
Non, là je pense pas, très sincèrement, mais en même temps, là j'en sais rien.
Comment est-ce possible ça, pardon, un bon acteur, mauvais lecteur?
Moi je vais vous donner un exemple. Dupontel. Albert Dupontel, puisque moi j'ai eu le bonheur de l'avoir dans mon premier film, Au-delà de tout le monde, avec Catherine Froh. Mais Albert, il est catastrophique en lecture. Il murmure, il patauge, il s'en fout, ça l'énerve. Il est épouvantable. Et on se dit, c'est pas possible, je vais pas faire un film avec lui.
Non, mais c'est plus
et après, il arrive sur le plateau, c'est pas le même. Tout d'un coup, c'est Superman, alors qu'avant, on avait un vieillard Kashoshim qui... On a l'impression qu'il n'arrivait même pas à déchiffrer les lettres. Mais voilà, parce qu'il n'aime pas l'exercice de la lecture. Voilà. Mais ça veut rien dire.
Après. Alors que Depardieu, et c'était...
Qui racontait comment Depardieu prenait un texte, était capable tout d'un coup de trouver la justesse de façon complètement fascinante, alors qu'il découvre
Guillaume
le texte.
Guillaume de Tonquédec qui nous avait raconté ça ici.
Ouais. Mais c'est un musicien.
Ouais. C'est pour ça, c'est la différence.
Le sens du rythme, la musicalité des
Depardieu,
des
il a
paroles.
Toujours eu. Ouais. Il pourrait vous lire l'annuaire, tout d'un coup, on découvrirait la musique.
Comme à Lucchini, quoi.
Exactement. Ouais. Ouais. C'est les musiciens qui lisent bien.
23e édition donc, de ce festival de Grignan. Je vais y arriver, de Grignan. Lettre de Belgique.
Moi, je peux vous donner un conseil, c'est qu'il y a deux festivals qui s'enchaînent. On va à Grignan d'abord, et quand Grignan finit, Avignon commence.
Je sens que c'est votre planning de début d'été.
Le
mec, il a déjà les horaires. Merci. Il a déjà les horaires de train. Ouais. Avec les 2-3 bonnes tables par lesquelles il faut passer, peut-être.
Est-ce qu'il aura les trains? Ça, c'est autre chose.
Justement, faites-vous les vieilles charrues, puisque comme ça.
Il y a les Franco aussi.
Maréchal Galage, j'espère que vous avez compris pourquoi Éric Emmanuel Schmitt était notre invité.
Heureusement, mon cher Nagui, que je passe vous voir de temps en temps à France Inter, vous et votre bande d'originaux, parce que. Ne riez pas. Parce qu'au vieux gland, mon EHPAD, je passe souvent l'occasion de rigoler. Et là, tout à l'heure, dans le bureau, j'ai ri à m'en décrocher le fondement. Genby, vous savez, le gars mal rasé de Coulommiers.
Notre rédacteur en chef.
Oui, qui vous marche le boulot. Genby, il va à Grignan.
Il mange pas que ça.
T'es sérieux?
Encore une fois, je suis d'accord avec vous.
Non, ça suffit là.
Non. Et donc, Genby, qui ne mange pas que ça, arrive et vous lui lancez. Dans la loge, je viens d'apercevoir Éric Emmanuel Schmitt. Tu peux me dire pourquoi il vient? Mais oui, mon très bon maître, pour le 23e festival de la correspondance. Mais bougre de nullard, c'est pas Éric Emmanuel Schmitt qu'il fallait inviter, c'est Laurent Deutsch. Si tu avais lu son bouquin sur le métro, tu saurais que les correspondances, il les connaît à donf. Changer opéra, etc. J'ai honte d'oser avoir l'inadmissible audace de vous contredire, ô infaillible maître des ondes. Mais Éric Emmanuel Schmitt vient nous parler d'un festival épistolaire. Ah, ben je savais pas qu'Éric aimait les armes à ce point. Franchement. Ah oui, tu peux toujours. Et il me déçoit. Mais bon. Passe-moi tes fiches. Éric est un habitué de l'émission, ça devrait bien se passer. Je vais juste lui demander de pas sortir son gun. Voilà, cher Éric Emmanuel Schmitt, comment on se prépare la bande originale. Pour ma part, je me souviens avoir échangé des lettres torrides avec Edmond, ma future épouse, tellement, grâce à Barnabé, pigeon voyageur. C'était en 1954, en Indo, à Gangbang Phok, où j'étais complètement encerclé, acculé par les Viettes.
Acculé, c'est le mot.
Hélas, un jour, alors que j'étais assis sur sa cage, Barnabé a explosé. Les Viettes, ces fourbes, l'avaient intercepté, l'avaient piégé en lui cachant une grenade à retardement dans le croupion. Depuis, comprendrez que je ne peux rester assis plus de 3 minutes. Aussi, ben je vous laisse, je vous écrirai.
Ah voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup.
La bande originale, Lady sur France Inter.
Leïla, vos oreilles ont sifflé lorsqu'on vous a dit qu'Éric Emmanuel Schmitt
ça siffle.
Revenait à ce micro.
Quand je pense à vous, Éric Emmanuel Schmitt, je pense à l'une de vos passions, une passion qui s'écoute.
La musique agit comme la foudre. Elle ne frappe pas au hasard. Elle choisit les points éminents. Ainsi, ce 25 octobre 1838, elle vise le 26 rue de la Tour d'Auvergne à Paris. Et s'abat sur un couple de musiciens. Georges Bizet naît dans un piano entre deux vocalises, car Madame Bizet est pianiste et Monsieur Bizet professeur de chant.
C'est vous récitant votre texte, le mystère Bizet. Vous êtes très très attaché à la musique classique. C'est une véritable passion des opéras.
Il était venu parler du secret Chopin ici.
Absolument, ouais. Opéras avaient été créés à partir de vos textes. Elle vient d'où cette passion? Est-ce que la foudre est tombée vous aussi sur la maison à votre naissance? Qu'est-ce qui explique?
C'est un peu ça, c'est-à-dire dans la maison de mon enfance. On était officiellement 4, mais en fait, on était 5. Il y avait un intrus qui habitait au salon, c'était un piano droit. Et ma sœur, qui est mon aînée de 5 ans, qui est devenue une brillante biologiste, n'était pas destinée à être une brillante musicienne, puisqu'elle torturait ce piano tous les jours. Donc, je croyais que je détestais le piano. Et puis, un jour, quelqu'un est venu à la maison, une tante, et elle s'est assise au piano et elle a joué du Chopin. Et là, vraiment, j'ai l'impression que le monde avait basculé, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que l'air avait changé, que la lumière était arrivée parmi nous. Et le soir même, j'ai dit, je veux apprendre le piano. Et voilà, j'ai appris le piano pour essayer de retrouver cette espèce d'éblouissement, de sérénité vivante, ouais, palpitante. C'est-à-dire la musique au milieu de nous, quoi, qui nous fait battre le cœur. Enfin, moi, je suis très partisan de ce que dit Bergson sur la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est ce qui fait qu'on cesse de subir le temps pour le savourer. C'est comme si c'était la respiration du temps et en même temps la respiration du silence. Et donc voilà, la musique, elle nous appelle toujours à nous sentir intensément vivants.
Ça va avec avec la lecture aussi, ce que vous dites.
On ralentit le temps avec la lecture aussi.
Quand c'est
plaisant.
Oui, oui, quand c'est plaisant. Mais encore la lecture.
Oui, mais la musique aussi, quand c'est plaisant. Oui.
Ça va avec la drogue.
Mais encore
quand c'est plaisant.
Mais la lecture, elle est à votre rythme quand même. Tandis que la musique, elle s'impose à vous au rythme que délivrent les musiciens. Donc c'est vraiment. Vous croyez que vous subissez quelque chose et en fait vous savourez et ça rentre en vous.
On a reçu la semaine dernière Radu Mihailianu, le réalisateur, qui va mettre en scène Carmen,
oui,
de Bizet. Si vous deviez choisir là un opéra à mettre en scène, je crois que vous êtes déjà prêté à l'exercice.
Pas encore.
Pas la mise en scène.
La mise en scène, oui, mais pas d'opéra. Moi, si je devais mettre en scène quelque chose, Don Giovanni, Don Juan.
Et pourquoi? Pourquoi ce choix?
Parce que il y a toutes les façons d'aimer qui sont dans Don Juan, l'amour qui se limite au désir, l'amour qui va jusqu'au sentiment, l'amour qui va jusqu'à la vengeance. Tous les personnages présentent des différentes formes d'amour, donc forcément on s'y retrouve. Et puis c'est
très bien, un échantillon
de tout ce qu'on a vécu ou qu'on va vivre.
Donc des possibilités.
Voilà.
Tout le monde peut passer un message, Eric.
Une sorte de mode d'emploi, en fait.
C'est ça. Et puis, avec toujours ce qui est beau dans l'opéra Don Giovanni de Mozart, c'est que Mozart ne juge jamais ses personnages. Il les laisse vivre, il les laisse exister. Qu'ils soient, entre guillemets, des méchants ou des bons. En fait, il n'y a pas de méchants ou il n'y a pas de bons. Il y a des êtres vivants avec leur complexité. Et alors, ça, moi, ça me bouleverse.
Et au point de pouvoir aller rencontrer des gens pour proposer une mise en scène, vous attendez que le rêve arrive, si tant est que ce soit un rêve, de mettre en scène Don Giovanni. Vraiment.
Ben, en fait, parfois, on m'a proposé des choses, mais j'aime tellement écrire. Le temps de faire une mise en scène d'opéra, j'ai sans doute le temps d'écrire une pièce et un roman. Non, je sais pas.
Moi, je me rends pas compte, c'est de votre rythme,
Ouais, vous allez vite.
Ouais, bon.
Non, mais c'est pas le cas de tous les écrivains. On sent que certains ont...
Moi, j'adore les arts de la scène, mais vous écrivez sur l'eau. C'est-à-dire, vous écrivez dans la mémoire des gens, etc. Oui. Et c'est dans l'éphémère. Et c'est ce qui fait la beauté absolue de ça, parce que finalement, on se dépense d'une façon solaire dans l'instant, et ça, c'est une morale, c'est magnifique. Mais moi, j'aime bien écrire sur la page, et puis que ça reste. Voilà. Donc, parfois, je choisis plutôt la page.
L'écriture et la lecture au Festival de Grignan, donc du 3 au 7 juillet, où on parlait de musique cette fois-ci. C'est le Calypso qui débarque dans la bande originale. Le Calypso, le Calypso Rose, c'est un nouvel album qui débarque avec des reprises aussi. Calypso Rose, pour resituer quand même cette dame qui a, je ne crois pas dévoiler des secrets, mais 78, 79 ans, qui est en pleine forme. Linda, qui a pris ce titre de reine du Calypso à partir des années, je crois que c'était en 72 où elle a décroché le titre de la reine du Calypso. Elle a eu 5 fois ce titre, elle est née à Tobago. Tous les carnavals et tout, sur toutes les idées de défense de droits de la femme qu'elle porte avec la joie de vivre et son côté carpe diem, cette reine du Calypso est en live dans la bande originale avec un nouveau titre, ça s'appelle Calypso Blues et je vous demande de l'accueillir.
Why yo?
Merci beaucoup. Calypso Rose. Un incroyable festival là, ici
on
dans le studio.
On a eu de la danse aussi dans ce studio.
Ouais,
dommage,
parce qu'il faut voir Calypso Rose quand elle s'anime, dès qu'elle prend le micro et dès qu'un son sort de sa bouche, c'est assez incroyable.
Il y a eu du déhanchement, il y a eu participation, il y a eu interpellation du public. Vous avez de la chance.
Et elle nous rejoint, Calypso Rose. C'est le rayon de soleil, hein. C'est le rayon de soleil d'aujourd'hui.
Calypso, bonjour, thank Calypso. You very much to be our guest once again. How are you?
I am fine. You are so welcome.
Okay. Bonjour. Bon, elle va bien.
Is everybody happy?
Yes. Yes.
Well, I want to sing something for you right here now.
Okay.
Elle veut chanter quelque
chose. I just sing Calypso Blues.
Elle vient chanter Calypso Blues.
He just came and held my hand. But I love his shoes.
Et voilà, je suis devenu la prendre. Je suis venu la prendre par
show
la main.
Your
pour
shoes,
la,
show
pour
your
la,
shoes.
Well, it's a radio show, you know. The shoes on radio. It's not a radio show, it's a radio show.
So, il est drôle aussi.
Donc, Calypso Blues, on va. Let's introduce to everybody what's the Calypso style of music. Once again.
Yes,
on va resituer ce qu'est le calypso, qui est une musique qui est née de différentes influences, qu'elles soient africaines, qui est à l'origine d'ailleurs de beaucoup aussi, et qui a elle-même influencé d'ailleurs le jazz et beaucoup de styles de musique comme le reggae. Mais ça vient du carnaval. First of all, it's the music from the carnival in Trinidad and Tobago.
The calypso music has been originated out of West Africa.
Donc ça
with
vient de
the rhythm
West.
Of the bass and the drums especially.
Donc ça vient à partir du tempo, yeah. de la batterie et de la basse.
It is an infectious music. The calypso music is very infectious. That you cannot sit, you gotta dance, you gotta move, you gotta gyrate.
Donc c'est comme une espèce de virus. On peut pas l'écouter, ne pas bouger, ne pas se lever, ne pas danser.
C'est comme une transe qui vous prend.
Exactement.
And
there is a lot of influence. Je le dirai après. Mais le plus important.
But the most important is the lyrics of the music.
Mais le plus important, ce sont les paroles.
Is very much important.
Les paroles sont très importantes because it's political lyrics. Ce
it
sont
could
des
be
très
political.
Politiques. Ça peut être politique.
It could be party wise. It could be commercial.
What do you mean commercial? Party wise? Sorry, I didn't get
to
it.
To fet. The lyrics in the calypso music. We go party. Aye. We go party.
Party-wise.
Tonight. Okay. You know, the lyrics.
Ça peut inciter
so
à faire la
hold
fête.
Me
d'accord.
Baby, hold me baby, hold me tight. We gonna party. But some of the lyrics again, like No Madame, open the ears and the eyes of everybody, whether you are a politician.
Et des paroles comme No Madame, par exemple, était un texte pour défendre la condition féminine. And this song that you've sang, la chanson qu'elle a faite et qu'elle a chantée, a carrément changé les lois dans son pays sur la condition féminine, sur le salaire réservé aux plus pauvres. It changed the law in your country,
oh,
this
yes.
song.
The law were being changed in 1974. Domestic servants
en 74, les personnes
in Trinidad and Tobago
et qui étaient au service d'autres personnes
was working for $20 a month. Imagine that.
Avaient seulement $20 par mois alors qu'ils
you
étaient
have
au
your
service.
Kids to go to school. You have school clothes because in the Caribbean we go in school in uniforms.
Alors, il y avait évidemment, ces personnes-là avaient des enfants qui allaient à l'école et ils devaient acheter les vêtements.
You have your
les uniformes obligatoires.
Pour aller à l'école.
You have your books.
Pour acheter les livres.
For the kids.
Pour les enfants.
How could $20 support a home?
Et comment pouvoir vivre
avec $20 par mois?
I opened the ears and the eyes of the late Dr. Eric Williams, he was the president, prime minister at that time.
Et c'est elle qui a ouvert les yeux avec cette chanson du premier ministre et le salaire de l'époque. Et le salaire a ensuite été modifié, carrément la loi a changé. And the calypso music had a lot of influences in all the style of music, jazz.
It does have a lot of influence in other types of music.
Et ça a beaucoup influencé différents styles de musique. For instance, on this album, sur le nouvel album, there is a cover of the Andrew Sister Rums and Coca-Cola. Il y a une reprise de Rum and Coca-Cola. But first, They took it from the Calypso. C'est d'abord
from
les Andrew Sisters qui ont,
Tobago.
Entre guillemets, emprunté le rum and Coca-Cola.
Rum and Coca-Cola been taken by the Andrew Sisters who resides in North America.
Elles habitaient en Amérique du Nord et elles ont emprunté rum and Coca-Cola à Trinidad et Tobago.
Rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mothers and daughters.
Elle a toujours ce sourire angélique, communicatif, ce plaisir à entendre de la musique. You still love being on stage, singing along, meeting people. Elle aime toujours ça. Is there a moment where you feel like, okay, now I'm gonna take my time at a sunny place and stop working, singing, and just enjoying the rest
the
of
Lord
my life?
The Lord has blessed me tremendously. Because I died three times.
Le Seigneur l'a béni plusieurs fois parce que
And the Lord has brought me back alive.
Elle est morte trois fois et c'est pas une formule hein, qu'elle emploie.
To do what I am doing today.
Et elle est revenue à la vie grâce à Dieu et pour
to
faire ce qu'elle fait aujourd'hui.
Joy.
Pour communiquer
and
la
music
joie.
To the people internationally.
Et porter cette musique dans le monde entier.
Orbi et Orbi.
Voilà.
I perform Saturday.
Elle a donné un concert samedi.
In La Rochelle.
À La Rochelle.
La Rochelle.
À Lyon.
And there were so, two little children.
Et il y a deux
they
petits enfants.
They wanted to get on stage.
Vous
and they
scène.
Were on there dancing with me. The Lord has brought me back alive. So I look at the kids.
Et ils ont voulu monter sur scène et danser
look
avec elle.
Look at the kids in the audience.
Et il y a des enfants qui sont dans le public, des jeunes.
Absolument le public, des jeunes enfants qui ont entre 50
here.
Et 65 ans.
I am here for a reason and thank God that you have me here in the audience at the present time.
So you won't ever stop. Elle n'arrêtera jamais.
No, I will never stop.
Okay.
She cooking shrimp and rice. Come to my island. You get plenty of seafood, lobster, shrimp.
Venez sur mon île, il y a plein de fruits de mer. Sur l'album, il y a aussi Wafu Dance avec Angelique Kidjo.
Guess Wafu Dance, let me dance.
Et Angélique sera là tout à l'heure pour chanter d'ailleurs ce titre. Et il y a une grosse influence avec beaucoup de musique africaine. Et beaucoup de concerts sont prévus. Puisque il y aura notamment Bruxelles à partir du 1er juillet, Fouesnant le 7 juillet, à Tours le 8, Carcassonne le 13 juillet, Saint-Raphaël le 15 juillet. Ensuite, au mois d'août, ils seront en Italie, également en France, en Belgique, à Namur. Et retour en septembre à la rentrée pour un concert le 18 septembre à la Cigale de Paris. L'album s'appelle Calypso. Ah non, l'album s'appelle Trinidad and Tobago. Je pensais que ça s'appelait Calypso Blues, mais pas du tout. C'est le premier titre de l'album. So your album called Trinidad and Tobago.
La Calypso, yeah, Trinidad and Tobago. My manager, Mr. Jean-Michel, who is a French national
Nobody is
born.
Perfect.
D'accord, donc Jean-Michel, son manager.
And he resides in Trinidad.
Il habite à Trinidad.
And so he has been doing a fantastic job.
Because he don't pay taxes.
Il est malin.
It's true.
Il est malin, Jean-Michel. C'est un malin, Jean-Michel.
Elle est passée sous la table maintenant. Calypso Rose.
En tout cas, il a bien bossé.
L'album s'appelle.
The police is looking for him in France.
He's very well known.
Yeah, police is looking for him. Yeah, they have handcuffs for him.
L'album s'appelle So Calypso.
Calypso
Rose reviendra tout à l'heure, notamment pour un medley où il y aura. Ça aussi, ça a été piqué, Calypso. Merci pour nous communiquer autant de joie, de plaisir, de vivre. Est-ce que vous avez une philosophie? Do you have a philosophy of life? Something to tell to the young kids and all the listeners to the radio?
Yes, this is Dr. Makata Sandy Lewis. I'm a doctor of letters.
Linda, donc elle devient docteur en lettres.
And I want to tell everybody who is in the audience and who is listening.
Elle veut dire à tout le monde.
On air to this station. Anything you want to do in life. you could do it. You have to plant your seed from early.
Quoi que vous vouliez faire dans la vie, vous
plant
pouvez le faire.
Plant a seed in your mind and say, this semez, is what I want.
Semez la graine dans votre esprit et dites, je veux le faire.
And that is very powerful. Your mind expand greatly, enormously, tremendously
to whatever
you want, like the ocean is being expanded.
Et votre esprit va se développer.
Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord!
Merci, Camille Charoz. Merci beaucoup.
Merci.
Tout à l'heure, elle reviendra.
Et on voit Jean-Michel courir avec deux valises qui est en train de quitter le pays.
Voici l'humeur de Frédéric Seguin.
Alléluia.
Vous savez, Nagui, des fois, je regarde dans mon assiette et dans celle des autres.
C'est bien.
Et souvent dans celle des autres aussi. Et des fois, j'ai l'impression de manger des fruits et des légumes qui voyagent plus que moi. Non mais c'est vrai, des limons qui viennent du Cameroun, des melons qui viennent de Floride. Alors à une époque,
les ananas du Costa Rica.
Exactement. Ouais, ouais. À une époque, on est tous en train de se demander si on aura assez d'argent ou de pétrole pour pouvoir prendre l'avion. Les légumes, eux, ils ont jamais autant voyagé. Hein. La mondialisation, c'est un tracas pour l'homme, un grand pas pour les crudités. Alors hier, il y avait quand même un bateau rempli de 600 migrants qui est resté deux jours en mer parce que personne voulait les accueillir. Est-ce que vous vous rendez compte que si ça avait été des barquettes de fraises, ils seraient déjà dans nos frigos ?
C'est clair.
Non mais c'est un truc de dingue quand même, la mondialisation. Et pourtant, ces aliments qui font du tourisme planétaire, c'est une catastrophe. Prenez la banane de Guadeloupe et de Martinique. Ah, parce que la banane, c'est ce que les Antilles exportent le plus, juste après les chanteurs de zouk et les grossesses non légitimes. Eh ben, la banane, non mais c'est vrai quand même. La banane, ce fruit délicieux qu'on n'ose jamais vraiment manger en public, hein, de peur d'une réflexion de mauvais goût, surtout si ton collègue de bureau a un prénom qui commence par Na et se termine par Guy. Un fruit qui est quand même cité 6712 fois dans l'œuvre de Francky Vincent.
Ah ouais.
J'ai compté 6712 bananes dans l'œuvre de Francky Vincent. Faut croire que ça m'intéresse. Un des desserts préférés des enfants, mais qui aujourd'hui aux Antilles fait plus de victimes que Daesh, le tabac et les accidents d'avion réunis.
Carrément.
Alors pas directement, parce que tu peux pas tuer quelqu'un avec une banane à moins. Enfin bref, ça c'est autre chose.
Non.
Mais la banane tue à cause du chlordécone, un pesticide. Et tout est vrai. Hein, un pesticide utilisé aux Antilles entre 72 et 93. Un pesticide qui a contaminé les Antilles pour plus de 700 ans. Soit une demi-carrière de Gérard Collomb. C'est un truc qui est vrai. Aujourd'hui, la quasi-totalité des Antillais sont contaminés par le chlordécone. C'est-à-dire, les terres sont contaminées, les rivières, le bétail, tout. Alors évidemment...
un pesticide pour entretenir les bananes.
Le but de ce pesticide, c'était juste d'éliminer le charançon. C'est un insecte qui devait être sacrément armé pour qu'on utilise un truc de genre. Parce que je sais pas, le charançon antillais dans les années 70, il devait faire 1m90, 200 kilos, porter une barbe et crier « Barman Wagbar !» Parce que quand même, le chlordécone, comme effet secondaire, entre autres, ça provoque des troubles neurologiques et testiculaires, des troubles de la motricité, de l'humeur, de l'élocution, de la mémoire immédiate, des cancers de la prostate, enfin bref, les mêmes symptômes que le rhum finalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais contrairement au rhum, où il est contrairement au rhum, c'est un... Moi, j'en ai bu un petit peu. Il est interdit aux États-Unis depuis 1979, parce qu'ils se sont très vite rendus compte que les gens faisaient pipi fluo et tout ça, ils se sont dit, il faut qu'on arrête. Mais en France, on l'a interdit en 90. Et qu'en métropole, parce qu'aux Antilles, on l'a interdit en 93, 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en 90, en métropole, on s'est dit, oh la vache, c'est dangereux cette merde, et il aura fallu 3 ans pour qu'on l'interdise aux Antilles. Et après, on dit que ce sont les Antillais qui sont lents. Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais c'est encore une chronique victimaire, gna gna gna, le racisme, gna gna gna, les pauvres noirs. Mais je tiens quand même à dire aux auditeurs que les Antilles, finalement, pour la France, c'est pas qu'un lieu de vacances, c'est un département avec des gens qui y vivent, et c'est un peu le laboratoire de ce qu'un État peut faire de pire. À l'heure où on se pose des questions ici sur le glyphosate, je vous le dis, si ça arrivait là-bas, ça peut très bien arriver ici. Parce que des fois, on subit le décalage horaire, mais des fois aussi, on subit le décalage horreur.
Oh joli.
Bravo.
France Inter, Nagui et la bande originale.
Chlordécone.
Et malheureusement tout est vrai.
Ouais.
Tout est vrai.
Et malheureusement tout est vrai. Et le glyphosate n'a pas été interdit par les députés.
Dans 3 ans.
Si, dans 3 ans.
Non.
On verra déjà. Non, déjà non. En tout cas aujourd'hui, ça l'a pas, c'est pas interdit. Voilà, c'est surtout ça.
Tu sais quoi, prends-le entièrement pour toi et laisse-nous tranquille. La bande originale musicalement, justement, d'Éric Emmanuel Schmitt, notre invité, président de ce 23e festival de la correspondance de Grignan qui se tiendra du 3 au 7 juillet en 1983. Vous écoutiez. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. C'est générationnel, ça, ce titre-là. Ouais, incroyable. Incroyable. Eurythmics.
J'écoutais ça pour préparer mon agrégé de philo. Alors, vous oubliez que je préparais mon agrégé de philo, je sais pas.
Pourquoi on fait une agrégé de philo?
Bah, vous savez, on fait tous de la philo, hein,
sans le savoir.
Alors moi, je préférais savoir. Voilà, je voulais me donner tous les instruments de la boîte à outils conceptuelle pour pouvoir penser par moi-même et ne pas être sous influence. Et je crois que ça a marché. C'est-à-dire, je crois que je me suis débarrassé de pas mal de fantômes qui me hantaient.
Mais parce que vous vouliez enseigner, parce que passer la grecque, faire de la philo, c'est, on peut.
En fait, je voulais surtout faire de la philo. Voilà. Et puis après, il se trouve que j'ai enseigné 5 ans. Ouais. J'ai adoré.
Vous étiez maître de conf, ouais.
Maître de conf à l'université de Chambéry. Je rencontre toujours mes anciens élèves. Même au Liban, là où j'étais la semaine dernière, j'en ai rencontré, qui était professeur de français au Caire. J'ai enseigné 5 ans avec passion, parce que quand vous enseignez la philo, vous avez très peu d'élèves. J'avais 15-20 élèves, et je les avais plusieurs heures par semaine à la fac. Et voilà, c'est des moments importants, parce qu'est-ce qu'on fait quand on apprend la philo? On leur apprend pas à penser comme on pense, mm-hmm. On leur apprend à penser, ouais, par eux-mêmes.
On les observe penser.
Voilà, moi je leur disais, ne dites pas ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ne dites pas ce que je dis, mais faites ce que je fais, c'est-à-dire réfléchissez par vous-même, quoi. Et donc j'avais l'impression d'être un professeur de liberté. Mm-hmm. Vous vous rendez compte, c'est un peu contradictoire, professeur liberté, mais c'est un poisson soluble qui fonctionne. On peut apprendre aux gens à être libres, c'est-à-dire à se défaire des influences et à penser par eux-mêmes.
Et qu'est-ce qui vous rendait un peu moins libre dans la pratique de l'enseignement? Vous, parce qu'il y a forcément des contraintes.
Ouais.
C'est pas aux philosophes qu'on va dire ça.
Le salaire, c'est vrai. C'est surtout le mode d'avancement dans le salaire. C'est-à-dire que j'avais des collègues qui n'avaient rien à
faire. Les perspectives.
J'ai des collègues qui n'aimaient pas leur métier, qui n'aimaient pas enseigner, mm-hmm. qui n'aimaient pas les étudiants. Et qui.
T'es bien noté?
Oui, non, mais qui progressaient à l'ancienneté. Et,
oui.
Et qui finalement arrivaient en disant ça y est, j'ai plus personne dans mon TP ou il n'y a plus personne dans mon amphi. Donc en fait, ils faisaient le contraire de ce pourquoi ils étaient payés, c'est-à-dire ils vidaient les salles. Moi, je les remplissais déjà. Mais je trouvais complètement injuste et aberrant que, de toute façon, la progression se fasse à l'ancienneté et non pas à l'investissement, au mérite.
À l'enthousiasme.
À l'enthousiasme, voilà. Parce que,
sans être démago. Parce qu'en philosophie, c'est important aussi.
Ah oui, non, mais. Je trouve que c'est Cocteau qui a très très bien résumé ça, ce qu'est l'enseignement. Un jour, on demandait à Cocteau, si votre maison brûle, qu'est-ce que vous emportez? Et il a répondu, le feu. Et c'est ça qu'on doit transmettre quand on est prof, le feu, c'est-à-dire le désir d'apprendre, le désir de se cultiver, le désir de réfléchir. Voilà.
Moi, je veux
bien. C'est bien, tu laisses la conversation.
Mais le feu, pas la cendre.
On va dire ça dans le sud de la France en juillet.
L'eau s'en mouille.
Oui, voilà.
Il a pas dit que des trucs malins, Cocteau. Hein. J'emporte le feu, bah, ça va, c'est pour dire ça. Ouais.
1995, vous écoutiez. Cabaret. C'est votre premier rapport au spectacle, plaisir de voir une comédie musicale ou d'être...
Je crois que c'est la comédie musicale que je préfère, parce que je trouve que c'est une comédie musicale adulte. Souvent, les comédies musicales ont des livrets quand même un peu...
Cucu,
voilà. Il y a West Side Story, qu'évidemment j'adore, de Bernstein. Mais pour moi, c'est la pièce...
Très sexy.
Ouais,
en plus,
et puis sur toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir, et les ambiguïtés sexuelles, amoureuses, même par rapport à l'argent.
Et politique aussi.
Et politique, puisque c'est d'après une nouvelle de Isherwood. Et je me souviens, j'adore cette... J'étais allé la voir au studio, comment ça s'appelle, Studio 54 à New York,
ouais.
Où ça s'était repris il y a quelques années. Et moi, j'avais passé une soirée absolument divine, et à côté de moi, j'avais deux Américaines typiques, et elles sont sorties en disant « j'ai rien compris ».
Et je me suis dit, voilà pourquoi j'aime cette œuvre.
Studio 54 qui est sulfureux, enfin qui a une réputation sulfureuse aussi.
C'était bien de faire ça là.
Ouais. Non, parce qu'il y avait quoi de sulfureux dans Studio?
Il y avait des soirées qui étaient débridées.
Ah, bah, c'était l'époque d'Andy Warhol.
C'était pas Rome and Coca-Cola. C'était...
On ne servait pas que des cocktails. Oui.
Drugs and Coca-Cola.
Ok, sympa. J'aurais 80... adoré. J'aurais adoré, oui. 95, c'est Golden Joe.
Oui.
L'année d'avant, en 94, je fais un petit retour en arrière. Avec Le Visiteur, vous avez trois Molières.
Ouais.
Meilleur auteur, révélation théâtrale et meilleur spectacle. 95, Golden Joe. Et là, c'est pas un succès.
Ah non, c'est même un gros échec, le plus gros échec de ma vie.
C'est votre troisième pièce.
C'est ma troisième pièce. Ben, vous savez, c'est comme ça en français. Excès d'honneur, excès d'indignité. J'avais ramassé trop de Molières. Et donc, on vous le fait payer l'année suivante.
Vous pensez que ça n'a pas marché parce que c'est une sorte de sanction retour, ou alors c'est parce que la pièce rétrospectivement n'était pas si bonne?
Non, je pense que la pièce est bien, mais qu'elle ne ressemble pas à mes autres pièces parce qu'elle est assez désespérée.
D'accord.
Voilà.
Parce que ça correspondait à l'état dans lequel vous étiez.
Oui, ouais. Ouais, c'est une époque où je perdais des êtres proches et donc j'avais écrit très sincèrement la pièce, comme à d'autres moments quand je ne suis pas désespéré j'écris avec joie, et donc je pense qu'elle n'était pas destinée à rencontrer un grand public.
En 2012, Roberto Alagna. Et la nouvelle responsabilité pour Emmanuel Schmitt.
Et oui, vous prenez la direction d'un théâtre, le théâtre Rive Gauche à Paris. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné d'un metteur en scène, Francis Lombraille, et d'un comédien, Bruno Metzger. Qu'est-ce que ça change dans une vie d'auteur, tout d'un coup, d'être à la tête d'une institution?
C'est un coup de colère, en fait.
C'est-à-dire?
J'avais été le seul dramaturge au monde, après une sélection assez sévère, à pouvoir écrire une adaptation du journal d'Anne Frank. Et puis ça devait d'abord se créer aux Pays-Bas, puis dans d'autres pays, puis finalement ça se crée pas aux Pays-Bas. Je dis bah tiens, faisons-le d'abord à Paris. Et puis je vais voir des théâtres où j'ai fait quand même des triomphes. Et puis personne ne voulait de cette pièce, avec des prétextes qui me déplaisaient beaucoup, du genre mais on connaît l'histoire, c'est triste. Oh puis on parle trop de ces choses-là, etc., etc. Oui. Et donc ça m'a agacé au dernier degré. D'autant plus que je le rapportais pas seulement Anne Frank, mais je le rapportais Francis Huster qui voulait jouer le rôle d'Otto Frank. Donc ça sentait...
J'avais vu cette pièce, ouais.
Voilà. Ça sentait pas forcément mauvais. Et donc j'ai eu un coup de sang et j'ai acheté le théâtre Rive Gauche.
Vous êtes comme ça, vous?
Ouais.
Un truc qui vous agace, vous achetez pour...
C'est-à-dire que si vous faites un film et qu'il passe pas à la télé, vous achetez une chaîne. Je
n'ai pas le moyen d'acheter une chaîne, mais je me suis endetté pour acheter le théâtre.
D'accord.
Mais très sincèrement.
Et juste vraiment, la motivation, c'est honnête de le dire, la motivation principale, c'est de faire jouer votre pièce.
Oui, la mienne n'est pas la mienne, puisqu'il y avait quand même Anne Frank derrière. Non, je voulais pas vivre dans un monde où on pouvait pas monter ça.
D'accord.
C'est un peu capricieux.
C'est d'aller au bout de ses idéaux surtout.
Oui, c'est ça. Et alors après, je me trouve à la tête d'un théâtre. C'est une manière tout à fait élégante de perdre de l'argent, c'est bien.
C'est vraiment le cas?
Cette année, non. Au bout de 5 ans,
c'est-à-dire que le bonheur au théâtre, c'est d'équilibré.
C'est la première année positive, parce qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs pièces qui. Mais on a fait des succès, mais on les produisait trop cher. Vous voyez ce que. Et donc même en ayant des succès, on perdait de l'argent.
Puis moi, gestionnaire.
Voilà. Et puis surtout, moi, comme je suis habitué à être bien payé, je payais bien. Vous voyez ce que je veux dire?
Les autres. Il voit pas du tout ce que vous voulez dire.
J'avais du mal à dire.
J'ai le vide dans son regard, là.
Voilà, j'aimerais
tellement pouvoir parler.
Retour
de la musique. Toi, tu sais, Leïla. Retour de la musique. L'album de Calypso, nouvel album, s'appelle So Calypso. Cette reine du Calypso nous a chanté tout à l'heure Calypso Blues. Sur cet album, il y a des reprises, comme par exemple Rum and Coca-Cola. Ou encore Rivers Babylon. Et justement, il nous offre, je parle de Johan, Jamba, Coré, David, Cali, Sylvain, Fabien, que vous pouvez applaudir, qui sont tous là, parce que c'est en live, le studio de la bande originale, un medley justement, version Calypso Rose. cela figure sur son album. Elle a pris la bouche de tout le monde. Elle a pris la bouche du public. Elle a dansé. Elle a mis
le feu. Commencé par celle de Nagui.
C'est pas débattu.
C'est bien ça.
Je ne sais pas rêver.
Elle a pas mis beaucoup de résistance. Je ne sais pas rêver.
Elle a une part direct pour un test de grossesse.
Elle a mis le feu.
Direct.
Tanguy Passuro. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Les moutons de Nouvelle-Zélande émettent du méthane. C'est un problème.
Oui, puisqu'ils rotent et dégagent des flatulences comme chez nous les sénateurs quand ils reviennent de la cantine, c'est-à-dire tout le temps. Et des scientifiques néo-zélandais ont donc créé le mouton propre, zéro méthane.
Très bien, on en parle après les infos de midi.
Je vous en prie.
C'est la bonne nouvelle, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Linda Gabriel.
Bonjour à tous.
Tanguy Passion, Daniel Morin.
Bravo toi.
Bonjour. En live tout à l'heure, le retour de Calypso. Et notre invité est Eric Emmanuel Schmitt.
Eric.
Il sera donc, vous l'avez compris, à Grignan la première semaine de juillet, puis la deuxième semaine de juillet à Avignon, puis la troisième au festival de Ramatuelle. Enfin, vous allez faire la tournée des Grands Ducs et des festivals.
J'adore, moi, la période des festivals.
C'est vrai.
À Avignon, je peux voir 4 à 5 pièces par jour.
Là, c'est le directeur de théâtre qui parle.
J'imagine. Oui aussi, parce que éventuellement je peux en ramener pour à Paris, ce que j'ai fait l'année dernière, puisque j'ai repris un spectacle de deux jeunes qui jouaient La Dame de chez Maxime, version cabaret un peu sulfureux comme ça, et on a joué, ils ont eu 3 nominations en Molière, donc j'étais très heureux.
La démarche justement dont vous parliez tout à l'heure à propos de votre théâtre était de dire très bien, vous ne voulez pas de l'œuvre que je vous propose.
Très bien, je vous rachète.
Je vais surtout chercher l'indépendance,
ouais,
pour la création.
Ouais.
Est-ce que, à l'inverse, vous avez une totale liberté de créer dès l'instant où vous êtes responsable de que ce théâtre fonctionne aussi ?
Eh ben, j'ai une totale liberté dans la mesure où je fais pas faillite, quoi.
Il ouais, faut assumer derrière, en tout cas, les choix financiers. Quoi.
Voilà, mais quand on dirige un théâtre, en fait, il faut avoir un petit matelas à côté pour parfois finir les fins de mois et mettre un peu d'argent dans le théâtre pour payer tout le monde. Puis
quand le théâtre
va mieux, on vous rembourse.
C'est voilà. Le théâtre Rive Gauche,
oui.
Que vous dirigez avec Bruno Metzeger. D'ailleurs, dirigé avec, vous répartissez comment les tâches ?
Ouais, moi, je fais la direction artistique et Bruno Metzeger et Nathalie Chesvic font la direction administratif.
L'administration, voilà. Très bien. Alors, actuellement à l'affiche, il y a Voyage en ascenseur de Sophie Forte avec Corinne Touzé et Jean Hertz, Marie-Louise. En septembre, vous allez reprendre Monsieur Ibrahim, ouais, et les Fleurs du Coran.
Enfin, à Paris. Parce que c'est vrai que je l'ai joué un peu partout. Là. J'ai joué 150 fois.
Dans le monde, pas un peu partout, en France en plus. C'est partout,
oui,
dans le monde. Peu,
oui, parce qu'il y a un mois...
Depuis 5 ans.
Ouais, depuis 5 ans, je le joue. En fait, j'ai remplacé l'acteur qui était Francis Lalanne, qui pouvait pas parce qu'il faisait des galas certains soirs. Et on m'a dit, est-ce que tu veux le remplacer? Je me suis entendu dire oui. Et puis, voilà.
une voix
dit oui. Et j'ai eu 3 jours pour apprendre le texte, 4 après-midi pour apprendre la mise en scène. Et je me suis retrouvé devant le public le jeudi. Et moi, je sais pas si j'ai été bon, mais le public a été vraiment bon.
Pourquoi vous avez appris le texte que vous avez écrit?
Parce que
vous l'avez écrit.
Je le connaissais de façon passive.
Parce que c'est vous qui l'avez écrit.
À force de le voir jouer, mais il veut le mettre en soi,
ça
le faire descendre en soi.
Et vous en rêviez. On peut pas dire
au fond, oui
comme ça
au
de
fond,
façon.
Oui. Au fond, oui. Oui. C'est Bruno Metzger qui m'a proposé. Et au fond, il savait que j'en rêvais. Et puis c'est vrai que j'ai le bonheur de le jouer. Alors en France, en Belgique, mais il y a un mois, j'étais aux États-Unis. Je l'ai joué à New York, à San Francisco et à Los Angeles.
En toujours plus,
en Los Angeles, devant un public totalement américanophone, donc il y avait des sous-titres qu'on projetait, mais ils marchaient aussi bien que si. Comprenait. Puis vous savez, les Américains, pour vous montrer qu'ils aiment, ils rient beaucoup, même quand c'est pas drôle. Et puis la semaine dernière, j'étais au Liban et je l'ai joué à Beyrouth et ça, c'était
dire, ouais, c'est un message de paix, un message d'harmonie,
oui,
de tolérance.
Bah oui, parce que c'est une pièce qui raconte l'amitié d'un petit garçon juif avec un épicier musulman. Et la vie de ce petit garçon juif est absolument épouvantable parce qu'il a une famille totalement brisée d'ailleurs par des événements qui ont rapport à la condition juive. Et cet épicier musulman va devenir un père de substitution. Et en plus, il va l'emmener comme ça dans sa vie, dans son territoire. Il est soufi, hein, c'est-à-dire il pratique cet islam très libre, où on prie en dansant, où d'ailleurs on peut boire, qui est très mystique aussi. Et donc c'est tout un voyage qui est à la fois le voyage d'un petit garçon pour devenir un homme, parce qu'il est guetté par la violence, par la délinquance, et puis la magnifique sagesse de ce monsieur Ibrahim, que tout le monde reconnaît comme un sage, même si on n'a pas...
La
même religion que lui.
Et de la transmission et du partage. Voilà. Ça fait penser à cette... un jour, Michel Bougenat m'a dit qu'il avait trouvé la blague la plus courte et la plus drôle. Et c'est tout simplement, c'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe.
Elle est bien.
Elle est bonne. Voilà. Et je trouve qu'elle va bien. Elle va justement très bien.
Moi qui reviens du Liban, je peux vous dire c'est vrai.
Voilà. Voilà. Voici Tanguy Pastureau qui m'adresse l'info. Et c'est une réalité, Tanguy, le changement climatique.
Oui, ça fait 10 jours qu'on a tous un climat subtropical, hein, aussi chaud et humide que la barbe du rappeur Medine quand il voit la pub qu'on lui fait depuis dimanche. À Nantes, depuis début juin, on a battu tous les records de précipitations. Jean-Marc Ayrault, qui là-bas ne bouge pas parce qu'il dort, a des champignons qui lui ont poussé tout partout. Conséquence, on a des moustiques tigres énormes qui nous pompent 4 litres de sang par piqûre. Quand vous en écrasez un sur un mur, ça fait la même flaque d'hémoglobine que si Mamie Ghislaine se fait péter le caisson parce que Frédéric François, dans un concert, ne l'a pas calculé, alors qu'elle avait retiré son soutif en hurlant « Ils sont pour toi, ces beaux bébés, Fredo !» Et dans les jardins, il y a même des vers géants qui trucident nos vers de terre classiques. C'est le grand remplacement chez les lombriques. Vers géants capables de tuer des proies 50 fois plus lourdes qu'eux. C'est comme si Passe-Temps de Fort Boyard voyait Teddy Riner, Gérard Larcher et Frank Black des Pixies et leur disait « Ça va les filles ?» avant de les éclater avec un seul doigt. Bref, tout est bouleversé. Il fait moite, on vit entouré de monstres qui s'ajoutent à ceux qu'on a fait soi-même et qu'on désigne communément sous le nom d'enfants. Et il faut donc cesser cette horreur. Or, qu'est-ce qui provoque le réchauffement? La voiture, l'industrie, l'avion, mais aussi les animaux, car ils rotent et flatulent, c'est dégueulasse. Et ça relâche dans l'atmosphère du méthane, gaz à effet de serre. Et notamment les moutons, ces bêtes pleines de laine qu'on pourrait porter sur soi l'hiver pour avoir chaud, mais qui sont trop lourdes. C'est pour ça qu'on est obligé de les tondre. Donc en Nouvelle-Zélande, pays composé à 99% de moutons, hein, là-bas, les migrants qui veulent s'intégrer belles avant d'apprendre l'anglais. Eh bien, des chercheurs ont bossé sur le problème. Ils ont pris 200 moutons qu'ils ont divisés en deux groupes. Ceux qui avaient des flatulences et rotaient. Il y a un stagiaire de troisième qui a été obligé de renifler chaque mouton un par un. Et ceux plus précieux qui se retenaient. L'équivalent chez nous des bacs plus 5 en lettres, qui ont lu 80 fois l'éducation sentimentale et savent que si Madame Arnoux, dans le bouquin, avait flatulé, le jeune Frédéric Moreau aurait moins cherché à la pécho. Comme dirait Michael Youn quand il essaye de nous faire croire qu'il n'est pas vieux. Ensuite, ils ont fait se reproduire entre eux les moutons émettant le moins de méthane. Pour les exciter, ils leur ont projeté des photos d'Eli Chouraki parlant avec Nelson Montfort. Et les moutons, pensant qu'il s'agissait de deux délires en train de s'accoupler, ont fait l'amour.
Est-ce que du coup... Enlevez l'image, enlevez l'image que vous avez. Est-ce que du coup, ces moutons ont eu des petits...
Oui, Nagui, puisqu'ils ne peuvent pas mettre de préservatif, étant donné qu'ils ont des sabots, comme José Bové quand ils se relaxent. À cause de ça, ils ne peuvent pas non plus zapper. Vous les mettez sur TF1, 4 jours plus tard, ils sont toujours sur TF1, comme tout le monde. Ils agissent en moutons. Et la stupéfaction chez les scientifiques, ils constatent que les agneaux obtenus émettent 20% de méthane en moins. Ils rotent encore moins que leurs parents. Donc là, ils se disent, dans 10 ans, on arrivera à un mouton parfait, pas porté du tout sur les pets, on va passer en mouton de Patrick Sébastien à Lambert Wilson, qui est beau, sensible, posé, charmeur, c'est pas un mec, c'est une utopie. Et c'est ce qui se passe, parce qu'en faisant se reproduire entre eux cette deuxième génération de moutons, les suivants ont encore moins de flatulence, même si à cause de la consanguinité, ils se déplacent sur le dos en meuglant, comme chez nous les aristos en fin de race. Alors Suzanne Rowe, la généticienne à l'origine de cette expérience, dit qu'en plus, les moutons qui ne flatulent pas ont plus de laine, donc ils ne polluent pas, produisent plus, c'est génial, si on arrive à faire la même chose avec les ouvriers des pays pauvres, ça va régler bien des problèmes de couple aux Philippines, tout en continuant à nous garantir à nous des t-shirts à 1,99€. Alors à noter que l'élevage représente 20% des émissions de méthane à cause des renvois des vaches et des moutons qui n'ont aucune dignité. On est obligé de les modifier génétiquement pour qu'ils cessent de se comporter comme si c'était défoncé aux fêtes de Dax, avec zéro contrôle sur leur corps. En attendant, fais gaffe Lambert Wilson, les moutons super classe arrivent et ils sont mieux que toi.
Merci. Lambert Wilson qui sera aux lectures
de Grignan.
De Grignan du 3 au 7 juillet. L'album de Calypso Rose, le nouvel album So Calypso. Sur l'album, il y a également. Ou Sweet Brown Sugar. Underneath the mango tree.
Mango banana. banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean.
Ça donne le sourire en fait, hein, de l'entendre juste. Elle nous transmet toute sa joie et sa force de vivre. Les reprises d'I Say a Little Prayer. Il y a également Voodoo Leilou. Parmi toutes les personnes présentes, en invité exceptionnel, et à la gentillesse de venir également chanter, Angelique Kidjoé sur l'album, et elle chante avec Calypso Rose, Wafu Dance. Calypso Rose, faites encore du bruit pour elle. Bravo. Merci Calypso. Sur l'album de Calypso Rose, il y a Angelique Kidjo et notamment ce titre. Et je ne peux pas m'empêcher de parler du nouvel album d'Angélique Kidjo où elle reprend carrément un groupe mythique, les Talking Heads. Avec Once in Lifetime, entre autres. Version Angélique Kidjo, l'une des artistes à voir absolument sur scène qui chaque fois déménage. Il y a aussi Born Under the Punches. En fait, elle a repris l'album de Talking Heads, Remain in Light, et elle en a fait un album africain avec sa voix et son interprétation, Calypso Rose. L'album, lui, s'appelle So Calypso. Il est sorti il y a à peine une dizaine de jours et le concert parisien sera le 18 à La Cigale. Toutes les autres dates en province, que ce soit à Fouesnant, à Tours, à Carcassonne, Saint-Raphaël, ou même à Bordeaux, Namur, en Belgique, seront sur le site de l'émission, évidemment. À propos de ces lectures et du festival de Grignan, les rencontres donnent naissance à des vocations, vous pensez, c'est-à-dire ces rencontres littéraires,
ah oui.
Le fait de partager le processus de création, le fait de dire comment des auteurs travaillent, ça donne envie à d'autres de franchir le pas.
Moi, je suis devenu le parrain de plusieurs jeunes filles et jeunes gens qui ont envie d'écrire, parce que je ne peux que les encourager, et d'ailleurs dans plusieurs pays.
Vous avez le temps?
Ben, j'essaye de le prendre, c'est parfois
quand
difficile.
Quand on s'appelle Éric-Emmanuel Schmitt, qu'on fait des pièces, des romans, des récits, qu'on est directeur de théâtre, qu'on est président d'un festival, il y a
qu'on est membre de l'Académie
aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié.
L'Académie Goncourt, ça prend beaucoup de temps.
Ah oui, il faut lire énormément. Il faut être très assidu. Très...
Mais en même temps, moi je suis content d'être membre de l'Académie Goncourt parce que je ne lisais plus. Vous savez, c'était Victor Hugo quand on...
Pour un président d'un festival de lecture, je ne sais pas si c'est une bonne communication
à faire. Non, mais j'ai beaucoup lu. J'écrivais tellement que je finissais par ne plus lire. Et quand on me posait la question « Est-ce que vous lisez ?», je donnais la réponse de Victor Hugo « Est-ce qu'une vache boit du lait ?» Et okay. Puis finalement, je me suis remis à lire et je suis tellement heureux de m'être remis à lire pour l'Académie Goncourt et de lire mes contemporains. Parce qu'en fait, je me sclérosais en lisant les classiques et les classiques et les classiques.
Vous parlez de scléroser, ça tombe bien, voici Daniel Morin.
Patience, la patience.
Jouera.
Moi, j'ai rien dit.
Jouera pas. Petit problème pour l'équipe de foot iranienne. Conformément aux sanctions imposées par l'administration américaine, Nike n'est pas autorisé à faire commerce avec l'Iran sous peine de sanctions économiques. Du coup, l'équipe nationale ne recevra pas ses chaussures de foot comme prévu dans le contrat avec l'équipementier. Le premier match de l'équipe d'Iran, c'est vendredi. Le compte à rebours a déjà commencé. Les Iraniens ont 3 jours pour trouver des pompes. Bon les gars, la situation est grave, faut absolument trouver des godasses. On passe des coups de fil à tous les fabricants.
Allô Adidas, j'écoute.
Oui bonjour, on a besoin de chaussures pour la Coupe du Monde.
Ok, vous êtes combien?
23.
C'est quoi les pointures?
Alors, il y a 10x41, 12x42 et une paire de 43.
Désolé, on a plus de 43, il nous reste un vieux 49, je vous le fais à moins 50%.
Non, 49 c'est trop grand, ils vont pas pouvoir jouer.
C'est pour quel poste?
Gardien de but.
Ah ben ça court pas beaucoup un goal. Vous bourrez avec du papier journal et hop, ça fera l'affaire.
Bon d'accord, vous pouvez nous livrer vite.
Pour se faire une chaussure demain, c'est à quel nom?
C'est pour l'équipe nationale d'Iran.
L'Iran? Non mais vous déconnez ou quoi? Non, on annule tout, je prends pas de risque avec l'administration du gros rouquin, moi. Non, allez, au revoir, bonne Coupe du Monde.
Merde. Le temps presse. Ah non, là, nos chaussures, j'écoute. Oui, bonjour, on a besoin d'urgence de 23 paires de chaussures pour la Coupe du Monde de foot. Ça tombe bien, excellente nouvelle, j'ai exactement ce qu'il vous faut. En ce moment, le lot de 30 paires de bottes 100% caoutchouc est à moins 75%. C'est super, mais c'est pour jouer au foot. Alors, ça tombe bien, excellente nouvelle, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Gratuitement, je dis bien gratuitement, la Halo Chaussures vous offre une paire de ciseaux pour couper les bottes à hauteur de cheville pour transformer vos chaussures en chaussures de foot. Oui, mais non, tant pis, au revoir. Alors, ça tombe bien, excellente nouvelle, je vous dis au revoir aussi. Ça sent le moisi pour l'équipe de foot d'Iran. Cette fois, toutes les options envisagées sont tombées à l'eau.
Oh, à moins que...
Oh, touché et attristé par l'énorme problème de l'équipe de foot iranienne, un mécène a décidé de procurer gratuitement des chaussures à tous les joueurs. Dans un geste aussi fou que généreux, Nagui offre à l'Iran 23 paires de vieilles Louboutins. Interrogé par la presse, l'animateur fou et bisexuel a déclaré « Si ça fait plaisir et que ça débarrasse en même temps, tout le monde est gagnant !» Nagui tellement soucieux de la livraison en temps et en heure qu'il ira en personne en Russie à
porter les 23 paires de pompes. Quelle générosité, quel esprit de partage, quelle solidarité. Quel escroc. Ah, qu'est-ce qu'on dit les amis? Merci Nagui. Qu'est-ce qu'on dit les Iraniens? Merci le Boutin. Tant qu'il y aura des hommes généreux, le monde ira bien, le monde ira mieux. À demain.
Tu prépares de futur coming next, c'est ça. Il prépare le terrain. 23e édition du Festival de Correspondance. C'est à Grignan à partir du 3 juillet jusqu'au 7 juillet. L'ouverture d'ailleurs se fera par cette rencontre littéraire entre Amélie Nothomb et Éric Emmanuel Schmitt à 19h30. Vous trouvez un arbre, un chêne, oui. Voilà, quelque part dans la nature. Vous aimez bien ces rencontres, déambuler à l'extérieur plutôt que d'être enfermé dans une salle.
Bah, ça change un peu. Et puis c'est l'esprit du festival, quoi, parce que c'est le village est sublime. C'est un vrai village du 17e, 18e siècle, qui est comme ça bâti sur un petit mont, et rien que d'être dans ce village, déjà vous fait voyager dans le temps.
Et votre théâtre, donc, vous serez, pour, on l'a pas précisé tout à l'heure, on parlait de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, que vous avez écrit, que vous allez interpréter, mais il y a que, entre guillemets, 30 représentations oui. exceptionnelles que vous allez interpréter, ça sera à partir du 5 septembre jusqu'au 14 octobre, au théâtre Rive Gauche. D'autres projets, vous avez d'autres envies dans ce, j'ai l'impression que s'il y a un jour où vous ne faites rien, ça vous va pas.
Oui, mais je fais jamais d'échographie quand je suis enceint. Donc, j'ai des livres que je porte, que je vais écrire, mais si j'en parle, je ne vais pas les écrire.
D'accord. Bah, dès que vous accouchez, ouais. vous nous prévenez.
Mmh. Voilà.
Des excuses à présenter, Daniel.
Bien évidemment. Désolé pour Éric Emmanuel Schmitt. J'ai eu Amélie Nothomb à la pause. Elle annule. J'ai reçu un SMS de Benoît Poulvord. Il a piscine. Et un fax de Lambert Wilson qui me confirme qu'il voulait être payé. Voilà. Bon, désolé pour Isabelle Adjani. Éric Emmanuel Schmitt n'a pas osé le dire en direct, mais il me l'a confié à la pause. Il préférait que vous ne reveniez pas. Il a proposé votre place à Albert Dupontel. C'est pas très élégant, mais il essaye de se rattraper.
Dis-moi bien, il est dit.
Désolé pour Leïla, qui a perdu tous ses repères quand elle a découvert, à cause d'Éric Emmanuel Schmitt, qu'il y avait des étudiants à Chambéry. Eh ouais, ah, la Savoie, terre de reblochons, d'hommes qui boitent, de femmes qui boivent, de l'amour en famille et du savoir.
Merci, bon festival, monsieur le président.
Merci.
Merci avec Emmanuel Schmitt. Demain, Bruno Podalydès sera notre invité.
Je peux rajouter que dimanche, vous retrouverez Angélique Kidjo qui viendra dans l'émission Vous les femmes.
Très bien. Voilà. Dans ton émission à 17h.
De 17h à 18h.
Dimanche. Voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui. Bonjour les amis.
C'est les cigales.
Ça, c'est les cigales sur la route de Montélimar qui montent vers Grignan. Daniel, dehors.
C'est pas moi, c'est Leïla qui a dit ça.
Non, ça m'étonnerait.
Merci, mon cher.
Mais je le sais, Leïla, tu jamais ouais. tu feras
il
ça.
Il est l'heure. Ouais,
et j'ai compris quand même si maternité il y a chez Éric Emmanuel Schmitt, ouais. il revient dans 9 mois, c'est ça.
Ça, oh, je pense que la gestation chez un auteur est plus rapide.
Ouais. Chez lui, oui.
Bah, d'accord. Salut les amis.
Salut Philippe. Ciao.